Il est 6h40 sur France Culture. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara.
Jacques, nous sommes le 3 mai 2018, ça ne vous a pas échappé. Il y a 50 ans, jour pour jour, la Sorbonne était occupée et évacuée.
Oui, et puis on peut dire que ce sont les débuts de mai 68, première manifestation, première barricade. 50 ans après, les archives parlent, on va voir ça. Merci. Merci.
Clara.
Clara, merci Clara Le Coq Réal.
Pas de souci, Jacques. On se retrouve à 8h.
J'étais dans mon sujet.
C'est déjà pas mal.
On se retrouve à 8h pour un nouveau journal.
À tout à l'heure.
Le journal des idées, Jacques Meunier.
Le 3 mai, donc, 68, la police évacue les étudiants qui occupaient la Sorbonne. Des dizaines d'entre eux sont embarqués. Des manifestations éclatent dans le quartier latin. Au cri de « Libérer nos camarades », les premières barricades sont élevées. 50 ans après les murs, les archives ont la parole. C'est le délai légal pour l'ouverture aux chercheurs de la mémoire de l'Élysée, de Matignon, du ministère de l'Intérieur, des RG, à l'exception de l'armée et du Quai d'Orsay qui ont un régime dérogatoire. Philippe Artière et Emmanuel Giry ont dirigé un travail d'enquête dans les kilomètres linéaires de carton où se serrent les traces multiples de la veille étatique du sommet à la base et notamment de la frénésie de la police dès qu'elle investit un lieu occupé ou un domicile, à tout photographier, ramasser et ordonner en dossier, tracts, affiches, agendas, répertoires, comme celui d'Alain Gesmard, perdu lors de l'évacuation des Beaux-Arts et qui sera récupéré par les RG avec les coordonnées des militants. Les pages ID de Libération donnent un aperçu de l'ouvrage tiré du dépouillement de ses archives par les historiens, publié à l'Iconoclaste sous le titre « 68, les archives du pouvoir », alors que s'ouvre aujourd'hui aux Archives nationales l'exposition qui en présente les pièces les plus significatives. Parmi elles, l'agenda du général de Gaulle avec, tous les soirs à 18h, une mention sibylline « Maison ». Il ne s'agit évidemment pas du dîner avec Yvonne, mais de la réunion des quatre grands services de la présidence, le cabinet, l'état-major, le secrétariat général et Jacques Focard, monsieur Afrique et puissant conseiller auprès du général. Figure également dans l'ouvrage le tapuscrit du discours prononcé le 30 mai avec ses ratures et ses ajouts et diffusé à la radio car le chef de l'État craignait que les grévistes de la télé ne lui coupent l'image. « Je ne me retirerai pas », assène le général. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Comme on peut le voir sur le document, la phrase initiale était « Je ne dissoudrai pas en ce moment le Parlement qui n'a pas voté la censure ». Tout s'est joué peu avant, lors d'une entrevue avec le Premier ministre. Celui-ci explique Emmanuel Giry l'a convaincu de reporter le référendum annoncé le 24 mai, d'organiser des élections législatives et d'accepter un remaniement ministériel. Ce qui a frappé les chercheurs, c'est la souveraine continuité de l'État dans la tourmente. D'autant que, jusqu'au 18 mai, ses deux plus hauts représentants sont en voyage. Pompidou en Iran, du 2 au 11 mai, De Gaulle en Roumanie, du 13 au 18 mai. Commentaire de Philippe Artière, alors qu'aujourd'hui, un Premier ministre reviendrait immédiatement à Paris pour acter de la solennité du moment, ces voyages d'État désamorcent la gravité de la crise. La République tient le cap, confirme Michel Perrault dans sa préface. Alors que le pays est à l'arrêt, l'État continue à fonctionner. Il s'informe, notifie, réagit, surveille, gère le quotidien, collecte, consigne, prend la main, reprend la main en négociant et en réprimant. C'est même une sorte d'épreuve du feu pour la Ve République qui s'avère un outil redoutable pour gérer les crises. Les deux historiens soulignent par ailleurs que le plan essence est d'une grande ingéniosité et sur le protocole d'accord de Grenelle, pas d'entête, pas de signature, presque du bluff. Ça n'avait pas échappé aux syndicalistes de l'époque. À l'issue de ce que la CGT s'obstine à désigner comme un constat, et malgré la déclaration de Georges Segui au petit matin devant les caméras de télévision, lâchant que la reprise du travail ne saurait tarder, la grève continue. Roger Martelly a exploré les archives à l'autre bord des événements de mai 68, celles du pouvoir ouvrier constitué par le PCF. Entre débordement et alignement, la stratégie des communistes reflète un grand malentendu. descendu. C'est le sous-titre de son ouvrage publié aux éditions sociales communistes en 1968. Dans un premier temps, c'est l'obsession des gauchistes qui s'impose dans un cadre typiquement léniniste, contrer leur influence dans les milieux intellectuels, régler le cas des sections dissidentes de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, notamment celle de la rue d'Ulm, dominée par les althusseriens maoïstes. Drôle de bête. Faire en sorte que de leur rendre toute activité politique impossible dans le monde ouvrier, un responsable est même désigné pour suivre le dossier, c'est un certain Georges Marchais. Le 3 mai, il publie en première page de l'Humanité un article dénonçant l'aventurisme gauchiste qui porte le plus grand préjudice au mouvement révolutionnaire et l'agitation qui va à l'encontre des intérêts de la masse des étudiants et favorise les provocations fascistes. Citant Marcuse, qui vit aux États-Unis, précise-t-il. Il fustige les fils de grands bourgeois qui rapidement mettront en veilleuse leur flamme révolutionnaire pour aller diriger l'entreprise de papa. Manque de bol, l'article paraît le jour de l'évacuation de la Sorbonne, quand la répression s'abat sur les manifestants et que les soi-disant fils de bourgeois apparaissent déjà comme les porte-voix d'une jeunesse méprisée.